parfois des réalités qui sont intéressantes à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique.
L'émission qui regarde la musique.
Panoramique.
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 Et bonsoir tout le monde. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que pour vous aussi, les bonnes résolutions vous permettront de garder un petit peu de temps et un petit peu d'énergie pour vous plonger dans des belles pages et de belles images qui bougent chez Panoramique, c'est-à-dire dans les locaux très luxueux et surtout très virtuels localisés dans ma tête. On a bien potassé pendant ce petit break de début d'hiver et en résultat, le calendrier de janvier a un tout petit peu bougé. Je m'explique. Depuis le début de cette émission, je dois trouver des moyens parfois très détournés pour parler de femmes compositrices de musique de film, les femmes qui plafonnent encore aujourd'hui à moins de 10% dans ce métier. À vrai dire, j'arrondis à 10, mais les sources que j'ai trouvées sont celles de l'Union des compositeurs de musique de film, confirmées aussi par Radio France en 2021 et aussi par la RTS l'année dernière. Tous ces gens donc parlent plutôt d'un chiffre qui serait situé entre 6 et 8%. Alors, c'est pas une fatalité, mais c'est juste une information. Je la trouvais, cela dit, vraiment importante parce qu'elle permet de bien mettre en perspective combien les rares femmes dont on entend parler dans ce secteur ont bossé probablement comme des damnées pour arriver là où elles sont. La plupart ont probablement dû rouler contre le vent et se heurter à des stéréotypes, des inégalités de traitement et des impasses en tout genre qui ont sans doute achevé de décourager leurs consoeurs. Voilà, je souhaitais simplement rappeler cet élément de contexte, ce chiffre qui m'a marqué en fin d'année dernière lorsque je l'ai découvert par curiosité dans le cadre de la préparation de l'émission sur les Saturn Awards. Cela étant dit, je pense que j'aurais parlé de Hildur Gunnadottir aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Elle ait été une femme, un homme, une poule d'eau ou encore un presse-agrumes, car son travail me touche et son parcours est absurdement riche et passionnant. C'est une Islandaise, elle vient d'avoir 40 ans et depuis 20 ans, elle occupe une place vraiment particulière dans l'industrie musicale. On va essayer de comprendre pourquoi dans l'émission de ce soir. Déjà, sur le plan de l'actualité, cet hiver, vous entendrez les partitions de Hildur Gunnadottir dans deux films qui sortent en salle chez nous. Le très attendu Tár, un drame musical de Todd Phillips. C'est un film qui met en scène la descente aux enfers d'une chef d'orchestre tyrannique, Lydia Tár, interprétée par Cate Blanchett, qui vient de remporter d'ailleurs un Golden Globe pour ce rôle. On a beaucoup entendu parler de Tár récemment parce que, même si le personnage principal est censé être fictif, eh bien il comporte beaucoup de points communs avec la chef américaine Marin Haslop. Elle a partagé en fait dans les médias son incompréhension et son mécontentement au sujet de ce film qui selon elle en fait dessert la cause des femmes qui sont déjà rares dans ce milieu parce qu'en fait il présente une figure ultra toxique et abusive. Donc c'est vrai qu'elle elle selon Marina Slope en fait Cate Blanchett prend des traits voilà très masculins, très hystériques aussi qui dessert la cause des femmes. Ça sort le 25 janvier. Et puis aussi, bien sûr, le film Women Talking de Sarah Polley, une adaptation d'un livre qui relate l'histoire vraie et qui fait froid dans le dos d'une colonie religieuse en Bolivie, au sein de laquelle les femmes ont été pendant de très nombreuses années victimes d'agressions systémiques en tout genre de la part des hommes de la colonie et doivent en fait un jour choisir entre rester et se battre, rester et ne rien faire, ou bien tout simplement, façon de parler bien sûr, quitter la communauté. Donc on pourra voir dans ce film par exemple Rooney Mara ou encore Frances McDormand. Le casting est vraiment excitant. Et voilà, Women Talking, ça sort le 8 mars, un petit peu plus tard. Et puis, on va remonter un petit peu le calendrier, parce que vous avez probablement déjà entendu la musique de Hildur Gunnadottir dans d'autres productions à succès. Je pense par exemple, évidemment, au Joker de Todd Phillips en 2019, ou encore la série Tchernobyl qui est sortie la même année. Et pour les bandes originales de l'un ou l'autre, la compositrice a été abondamment récompensée, a été révélée au grand public, une reconnaissance qui est venue couronner, comme je disais, ses presque 20 ans de carrière musicale, ponctuée aussi bien d'albums en solo que de collaborations avec d'autres groupes, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas... Avant de recevoir moi-même l'Oscar de l'introduction d'émission la plus longue de l'histoire, on va tout de suite lancer les hostilités et se plonger dans les mondes secrets de Hildur Gunnadottir. On commence avec le plus évident, un extrait du Joker justement qui donne son nom à la scène de la danse dans les toilettes, ça s'appelle donc Bathroom Dance, et à titre d'info, ça déboîte quand même 23 millions d'écoutes sur Spotify, rien que ça. Allez, à tout de suite dans Panoramique, vous écoutez Radio Campus Paris, je vous laisse.
Thank you.
vous êtes toujours dans Panoramique sur Radio Campus Paris. L'émission de ce soir est consacrée à la compositrice islandaise Hildur Guðnadóttir et c'est à elle qu'on doit ce morceau déchirant qu'on vient d'entendre, qui vient d'être joué. Un moment suspendu tout en gravité et en lenteur qui illustre une scène iconique du film Joker de Todd Phillips qui est sorti en 2019. Ce film en fait retrace le parcours de Arthur Fleck et sa transformation en Joker, qui avant de devenir le plus grand criminel de Gotham City et l'ennemi numéro 1 de Batman, était surtout un personnage, en fait, on le comprend dans le film, un personnage isolé, dépressif, extrêmement précaire. En fait, pendant 2 heures, on va suivre sa descente aux enfers à mesure que ses frustrations, déceptions et agressions quasi quotidiennes le poussent à commettre en fait ses premiers meurtres et à sombrer de manière irréversible dans la folie. Ce film a rencontré un succès vraiment fracassant, il a été couronné de plusieurs prix, Joaquin Phoenix par exemple, qui joue le rôle principal, a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour cette performance. Et c'est vrai que dans les médias, auprès du public, on parle souvent de cette performance, mais on mentionne également, alors peut-être pas à égalité, mais en tout cas quasiment, on mentionne également la performance de Hildur Guðnadóttir à la composition musicale. Elle aussi d'ailleurs a été oscarisée pour le Joker. Petit aparté d'ailleurs, c'est la 4e femme de l'histoire à recevoir un Oscar pour la musique d'un film et c'est la première personne islandaise à être récompensée par la fameuse statuette. Donc voilà, grosse fierté nationale, très compréhensible suite à l'attribution de ce prix. En fait, elle explique dans plusieurs interviews au sujet du film Joker qu'elle a beaucoup de chance de pouvoir travailler sur la partition bien avant le tournage, bien avant de recevoir les images en fait, parce qu'en fait Todd Phillips lui a accordé une confiance totale, lui a livré le scénario dès les premières ébauches en fait du travail sur ce film. Et en fait, elle a pu composer les premiers thèmes sur une base finalement qui était presque abstraite, c'est-à-dire vraiment en s'imprégnant dès le début du processus créatif, en travaillant main dans la main avec le réalisateur. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce disque qui illustre le film Joker, c'est un mélange très complexe, très subtil aussi, d'ambiances qui sont très obscures, très calmes, très lentes, et aussi de grosses montées en tension. En fait, c'est jamais que triste, ce n'est jamais que violent ou tendu, c'est toujours un peu à mi-chemin entre les deux. Notamment dans cette fameuse scène où Arthur Fleck vient de commettre en fait son premier meurtre et s'enferme dans les toilettes publiques pour fermer les yeux et se mettre à danser un peu comme une ballerine, désarticulée, avec des mouvements très lents, vraiment une grâce très étrange. Et en fait, c'est pas une explosion de joie, c'est pas quelque chose de brutal, c'est une sorte d'apaisement, voilà, un peu mélancolique, un sanglot un peu morbide, avec ce thème au violoncelle qui semble marquer le début inéluctable d'une nouvelle vie qui ne pourra en fait se solder que par un effet de spirale de plus en plus noir. Et en fait, le talent de Hildur Guðnadóttir, particulièrement sur ce morceau, je trouve, c'est qu'en fait, elle laisse plein de place au silence, elle laisse plein de suspense dans la musique. On reçoit en fait ces sortes de vagues de violoncelle hyper dépouillées et on entend presque le craquement des cordes. On reçoit vraiment un aperçu du vide. En fait, on est au bord du gouffre avec, en même temps que le personnage. Et c'est pas du tout la grosse artillerie surproduite et surorchestrée qui prendrait complètement le premier plan de cette scène. Une dernière anecdote de tournage pour compléter un petit peu cette petite chronique, c'est qu'en fait cette scène de danse muette dans les toilettes devait être à l'origine un monologue en fait de Joaquin Phoenix face au miroir. Et pour dire à quel point la musique était tellement impliquée et tellement faite pour imprégner le film et non l'inverse, c'est qu'en fait au final Todd Phillips et Joaquin Phoenix ont voulu remplacer cette scène de monologue par une scène de danse. Et donc après que le monologue a été tourné, ils ont demandé à ce que le thème Bathroom Dance soit diffusé pendant que cette scène était tournée à nouveau. Et du coup dans le film, les mouvements en fait de Joaquin Phoenix sont vraiment exécutés en direct, quasiment improvisés d'ailleurs pendant la diffusion de la musique de Hildur Guðnadóttir. Alors je sais pas si vous avez vu ce film, si vous vous en rappelez, si vous avez eu d'ailleurs la chance de le voir en salle à sa sortie, moi ça a été mon cas, et je me souviens très bien de mon sentiment pendant ces 2 minutes, qui est vraiment une scène iconique. On sait quand on la vit qu'on est en train de vivre un moment de cinéma un peu particulier, et je me rappelle avoir eu l'impression que quelqu'un était mort en fait dans la vraie vie, puisque cette salle de cinéma était pleine à craquer, et soudainement il n'y avait plus aucun bruit, il y avait une espèce de gravité terrifiante, c'était à la fois magique et profondément glaçant. Voilà, on va peut-être écouter un deuxième extrait de cette BO magnifique avant de passer à la suite. J'ai choisi aussi l'extrait Meeting Bruce Wayne, qui correspond au moment dans le film où Arthur Fleck tente d'approcher Thomas Wayne, en fait le père de Batman, qu'il soupçonne aussi d'être son propre père biologique aussi, parce qu'en fait la mère de Arthur Fleck, donc Penny Fleck, travaillait à l'époque comme gouvernante pour lui, et elle serait donc tombée enceinte d'Arthur dans le plus grand secret. Et en fait, le personnage d'Arthur, du coup, se rend au manoir des Wayne, de ce gars qui est un milliardaire extrêmement influent, et il n'arrive pas à rentrer, il tombe de l'autre côté du portail sur son jeune fils, Bruce, et il y a un échange, en fait, visuel et verbal extrêmement court, mais riche de sens, entre le futur Joker et le futur Batman, durant cette scène, qui sont donc censés être demi-frères, comme voilà, c'est ce qui est présenté, en tout cas, dans l'intrigue à ce moment-là du film. Et donc j'ai pris l'extrait musical en laissant exprès les dialogues. On entend aussi à la fin le majordome qui intervient pour dire à Arthur que, voilà, que sa mère était folle, qu'il n'est pas du tout le fils caché de Thomas Wayne, et qu'il peut, si possible, débarrasser le plancher, en gros. Et en fait, la musique qui illustre ce moment est voilà, l'une des plus emblématiques aussi du film. On l'écoute et on se retrouve juste après « Meeting Bruce Wayne » de Hildur Gunnadottir.
What's your name?
I'm Bruce.
Bruce. I'm Arthur.
Away from that man.
It's okay. I'm a good guy.
What are you doing? Who are you?
I'm here to see Mr. Wayne.
Well, you shouldn't be speaking to his son. Why did you give him these flowers?
No, they're not real. It's magic. I'm just trying to make him smile.
Well, it's not funny, is it? Do I need to call the police?
No. Please. My mother's name is Penny. Penny Fleck. She used to work here years ago. Can you please tell Mr. Wayne I need to see him?
You're her son.
Yeah. Did you know her?
I know about the two of them.
She told me everything.
There's nothing to know. There is no them. Your mother was delusional. She was a sick woman.
Don't say that.
Just go. Before you make a fool of yourself.
Thomas Wayne is my father.
Lift me!
C'est toujours Panoramique sur Radio Campus Paris. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle à nouveau que l'émission de ce soir est consacrée au portrait de l'Islandaise Hildur Gunnadottir, qui est une violoncelliste, compositrice de musique de film et chanteuse islandaise. Alors on vient de parler de sa contribution la plus connue au cinéma, qui est la BO du film Joker, qui a révélé son talent au grand public avec pas moins de 5 récompenses pour ce score. Elle a reçu un Oscar, comme on l'a déjà dit, mais elle a aussi reçu un Critics' Choice Awards, un Grammy, un Golden Globe et un BAFTA. À présent, je trouve ça aussi intéressant de faire un petit écart et de parler non pas de sa musique à l'image, mais aussi de sa carrière en solo dans la musique expérimentale. En fait, toutes les collaborations et productions de cette femme semblent chacune contenir une petite clé, une partie en fait dans une sorte de grand puzzle mystérieux qui prendra probablement toute sa vie musicale à s'assembler. Et vous allez entendre maintenant un extrait de son deuxième album solo qui s'appelle Without Thinking, donc sans couler, et qui est paru en 2009, donc elle avait 28 ans. En fait, c'est elle qui a écrit, composé, produit, joué, mixé et réalisé 99% de ce disque, mais les quelques invités qu'elle reçoit ne sont pas n'importe lesquels. Par exemple, sur ce titre, Into Warmer Air, il y a l'orgue et un peu de synthé aussi de son ami et mentor de toujours qui s'appelait Johan Johansson, avec qui elle était vraiment comme cul et chemise en studio et qui est mort en 2018 à Berlin. Et lui aussi était un compositeur de musique de film. Vous avez peut-être vu son nom au générique du film Mother ou du film Mandy ou encore du thriller Sicario de Denis Villeneuve, voilà, pour lequel sa BO a été nommée aux Oscars en 2016. Et donc, Hildur Gunnadottir et Johan Johansson ont souvent collaboré pour le cinéma ensemble, et hors cinéma aussi, puisque elle interprète très souvent au violoncelle plusieurs partitions qu'il compose et vice-versa. Et d'ailleurs, c'est ensuite à quatre mains qu'ils ont livré en fait la bande originale du deuxième volet du fameux film Sicario, justement, qui s'appelle La Guerre des Cartels. Mais revenons à 2009, et à ce titre que je voudrais vous faire découvrir maintenant. En fait, c'est un concerto de violoncelle qui me donne des frissons et qui illustre tout le génie de cette fille, de cette femme. C'est hyper magnétique, il y a toutes ces pistes de différents violoncelles qui se frôlent, qui se croisent avec un bourdon d'orgue hyper intelligent sur toute la deuxième partie du morceau. Et même si ce n'est pas de la musique de film, moi je peux pas m'empêcher de fermer les yeux et de me demander ce que ça pourrait bien illustrer à l'image. Par exemple des chevaux, voilà, qui tombent au ralenti pendant une charge de guerre, ou alors un accouchement, ou alors un orage, ou alors quelqu'un qui fait une sieste sur une méridienne et qui rêve d'une autre sieste sur une autre méridienne. Je ne sais pas trop, mais vous me direz ce que vous avez inventé comme film dans votre tête en écoutant ce morceau. En tout cas, c'est vraiment magnifique. On écoute Into Warmer Air de Hildur Gunnadottir. A tout de suite dans Panoramique.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Pour un soir, ça devient Radio Hildur Gonadottir, puisque je ne parle que d'elle pendant cet épisode de Panoramique et de son œuvre prolifique. On vient de parler de la BO du Joker, on vient d'écouter aussi un extrait de l'un de ses albums solo, et on va revenir un peu dans les salles obscures maintenant avec le film Tar, dont on parlait en introduction, Tar, T-A-R, qui est un peu notre cas à part en fait ce soir, parce que c'est un film qui parle de musique classique. Et qui, en fil rouge, montre le personnage de Cate Blanchett qui prépare une représentation de la 5e symphonie de Mahler et à la tête d'un orchestre allemand. Et en fait, la contrainte de la BO de ce film, c'était donc, selon les mots de Hildur Gonadottir, de ne pas rajouter, je cite, « de la crème sur de la crème ». En d'autres termes, de ne pas livrer une partition trop fournie, trop narrative en fait, et qui du coup se superposerait en fait à celle, à la partition de Gustav Mahler, qui est déjà très présente dans le film, puisqu'on parle de, on parle de la symphonie pendant presque 2 heures. Elle explique au contraire qu'elle a dû réfléchir, tester des choses, réfléchir à des textures beaucoup plus axées sur l'ambiance, sur le côté atmosphérique, sur presque le sound design en fait par moment, et en s'aidant aussi de ce qu'on appelle le field recording, donc l'enregistrement hors studio, en fait l'enregistrement de terrain, qui va capter des bruits naturels produits par l'homme dans un environnement un peu plus vivant, pour produire un habillage un petit peu différent. Et en fait, comme dans tous les films qui parlent de musique ou dans tous les biopics réels ou virtuels, le sujet de la BO est forcément un peu méta, mais ça fera l'objet d'une émission de Panoramique un peu plus tard dans l'année. Pour le moment, on parle surtout du film Tar, et on peut juste préciser que c'est l'une des rares BO où on peut entendre les qualités non pas uniquement de violoncelle, mais aussi de vocaliste de Hildur Gonadottir, avec ce morceau très court mais très, très intense qui ouvre le score du film et qui s'appelle For Petra. C'est juste un filet de voix qui est très intrigant, très sinueux, presque folklorique je trouve, et c'est finalement assez malin d'avoir donné à ce petit espace, dans un film qui traite surtout du rapport entre instrumentaliste, on va dire matériel, et chef d'orchestre. La voix, c'est ce qui nous humanise, c'est ce qui nous distingue les uns des autres, c'est ce qui est le plus personnel sans doute dans la façon d'aborder la musique si on doit en produire soi-même. Et si j'en crois le pitch de ce film qui n'est donc pas encore sorti, c'est justement en fait ce petit trait d'humanité qui semble manquer au personnage de Cate Blanchett, qui est décrite dans le film comme un bourreau de travail complètement déconnecté de ses semblables et dénué d'empathie. Donc voilà, n'hésitez pas à me consulter dans mon cabinet de voyance pour d'autres analyses psychologiques garanties sans trucage. Mais plus sérieusement, on écoute tout de suite le titre For Petra qui ouvre le film Tar, à retrouver en salle à la fin du mois de janvier. Bonne méditation à tous, à tout de suite sur Panoramique. Sans transition, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux la musique de Hildur Guðnadóttir, on peut aussi mentionner quelques éléments de sa biographie pour savoir comment approcher son œuvre. En fait, cette femme, c'est un petit prodige de la musique. Elle naît en 82 à Reykjavik dans une famille de musiciens. Son père est compositeur, prof de clarinette, sa mère aussi est chanteuse d'opéra. Même son frère est musicien puisqu'il fait partie du groupe de métal islandais Agent Fresco. Et pour elle, c'était vraiment le truc en fait hyper banal et normal de faire de la musique. D'ailleurs, elle plaisante souvent à ce sujet en interview en disant qu'elle aurait été bien plus punk et rebelle de faire de l'athlétisme plutôt que d'être compositrice. Elle commence le violoncelle à l'âge de 5 ans. Elle accompagne sa mère quelques années plus tard à l'âge de seulement 10 ans. Et puis, elle intègre une fois adolescente et adulte l'Académie de musique de Reykjavik avant de s'expatrier à l'Université des arts de Berlin, une ville où elle vit encore aujourd'hui avec son mari et son fils qui a une dizaine d'années. D'ailleurs, son mari n'est autre que Sam Slater, qui est aussi compositeur et producteur, avec Johan Johansson et Hildur Guðnadóttir. Ils ont collaboré d'ailleurs tous les trois sur beaucoup de pièces, notamment sur la bande originale du thriller Mandy de Panos Cosmatos, dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a vraiment, en fait, on peut, autour d'elle, un esprit familial, un esprit amical, presque fusionnel, en tout cas un esprit de bande un peu fascinant voilà, dans l'entourage de Hildur. En fait, tout le monde semble se fréquenter depuis toujours au studio comme à la ville. En fait, elle va commencer à se faire un nom, comme on dit, à Berlin. Ce sera plus simple qu'en Islande, où la logistique et le réseautage sont rendus un peu plus difficiles, voilà, du fait de la situation géographique de l'île, qui est assez contraignante, ne serait-ce que financièrement déjà, pour pouvoir se déplacer. On retrouve aussi un peu ce type de parcours d'expatrié chez beaucoup de compositeurs néo-zélandais, par exemple, voilà, sans grande surprise. Mais en tout cas, Hildur se bâtit une carrière d'ovni dès l'âge de 20 ans, d'abord grâce à des collaborations assez nombreuses et puis assez variées, et petit à petit en imposant son nom seul, notamment pour les bandes originales de cinéma. Parmi ces collaborations, je ne peux pas ne pas citer deux d'entre elles qui sont les plus régulières et les plus éloquentes si on veut expliquer ce côté un petit peu couteau suisse de Hildur Guðnadóttir. D'abord, le groupe islandais Mum, ça s'écrit M-U-M, sont des fers de lance de la musique post-rock expérimentale. On reconnaît leurs pattes grâce à des textures vocales comme par exemple celle-ci. Une collaboration aussi intéressante, c'est avec le groupe de drone metal américain Sun, également des amateurs d'ailleurs de parti pris sonores qui peuvent évoquer aux profanes des tambours de machines à laver plutôt que des concertos de musique savante, mais raison de plus pour mentionner la rencontre improbable entre ces deux univers. Et puis Hildur Guðnadóttir, c'est aussi une nerd d'atelier, c'est une alchimiste du son, une fabricante. Elle a carrément imaginé avec deux designers islandais des modèles de violoncelle complètement inédits. L'un est modulaire, donc c'est-à-dire détachable en gros, et l'autre est à résonance et automatique, c'est-à-dire qu'en fait il joue tout seul, et c'est un petit peu comme le gaffophone de Gaston Lagaffe. Il a été baptisé du nom de son papa, Haldor Ulfarsson. Ça s'appelle le Haldorophone. Vous pouvez trouver des vidéos sur le net assez facilement des concertos de ce violoncelle qui joue tout seul. Voilà, on approche lentement mais sûrement de la fin de cette émission. J'espère que ça vous aura permis de découvrir le travail de Hildur Gunadottir et donner envie aussi d'en savoir davantage sur elle. Il y a plein de choses gratuites à écouter en ligne si ça vous intéresse. Il y a plein de choses aussi à fouiner du côté de son entourage qui est finalement à son image passionnant et passionné. Malheureusement, il n'y a aucun événement en vue, je crois, pour entendre sa musique en concert. Mais par contre, une info qui est tombée il y a quelques jours, c'est que le deuxième volet du film Joker est en préparation. Et que c'est elle qui composera la bande originale aussi de ce deuxième film après le succès du premier. Voilà, ça c'est pour les infos logistiques. Avant de se quitter en musique avec un extrait de la BO de Woman Talking, je voulais aussi vous partager un extrait de son discours aux Oscars 2020, lorsqu'elle est montée sur scène pour recevoir la récompense justement pour la BO du film Joker. Alors pour les non-anglophones, ce sera traduit dans la foulée, le temps de renifler un bon coup et de sécher mes larmes, parce que je trouve que ces quelques secondes de micro sont vraiment émouvantes et inspirantes. A tout de suite.
Hildur Gunadottir, the Joker.
This is the first Oscar and nomination for Hildur Gunadottir.
Thank you, the Academy, for welcoming me so warmly. It's just, I don't know what to say. My fellow nominees, masters of the craft, it's been such an honor to get to know you all. It's been so special. A film composer is only as creative as the dialogue with the director. Todd Phillips was so generous to invite me on this journey and listen to me the whole way, so attentively, and I thank you for that, so deeply. And Bradley as well. Thank you, Bradley, as well. My family, my beautiful family who are here with me tonight, my incredible husband, Sam, my love, my best friend, my other set of ears, I'd be lost without you. My mother, my son, Kaori, I can't see you, but I love you so much. I love you. To the girls, to the women, to the mothers, to the daughters, who hear the music bubbling within, please speak up. We need to hear your voices.
Voilà, donc c'est Sigourney Weaver hein, qu'on entend au début remettre ce prix à la compositrice. On a une voix off qui précise que c'est pour Hildur Gunadottir le tout premier Oscar de sa carrière. Petite précision aussi parce qu'on a le son sans l'image. En fait, elle monte sur scène pendant une longue standing ovation. Il y a des gens qui ont les larmes aux yeux dans le public, c'est un moment assez fou. Et puis ensuite, Hildur Gunadottir remercie ses co-nominés de cette année-là. Elle dit que ça a été un plaisir de tous les connaître. Et puis, elle précise aussi que la créativité du compositeur de musique de film doit s'accompagner d'une créativité aussi du lien qui l'unit au réalisateur. Et à ce titre, eh bien, elle remercie Todd Phillips pour sa confiance. Elle remercie aussi Bradley Cooper qui a coproduit en fait le film Joker et qui a participé aussi au montage. Et puis, elle remercie bien sûr sa famille qui est présente dans la salle. Elle remercie son mari, Sam Sattler, en lui disant « Tu es mon amour, mon meilleur ami, ma deuxième paire d'oreilles, je serais perdue sans toi. » Ou évidemment, hors contexte, traduit en français, c'est un petit peu kitsch, mais personnellement, je trouve ça hyper puissant comme déclaration quand c'est fait sur scène avec une statuette dans les bras. Et puis, elle enchaîne enfin sur cette conclusion « À toutes les filles, à toutes les femmes, aux mères, aux sœurs, si vous entendez la musique gronder en vous, je vous en conjure, prenez la parole, nous avons besoin d'entendre votre voix. » Voilà, je vais laisser cette phrase s'imprimer dans les esprits qui ont besoin de l'entendre peut-être ce soir. Et puis après avoir entendu cette formidable femme parler aux femmes, on va bien sûr finir sur un extrait de Woman Talking. Je vous laisse en compagnie de deux titres extraits de cette bande originale. Le premier c'est Always et le deuxième c'est Speak Up. à bon entendeur. Voilà, merci d'avoir suivi ce 8e épisode de Panoramique. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. Et puis on se retrouve, nous, le dimanche 29 janvier pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
parfois des réalités qui sont intéressantes à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique.
L'émission qui regarde la musique.
Panoramique.
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 Panoramique. Panoramique.